Jean chapitre 6, verset 45. Vous avez l'heure, hein?
Des 25.
Midi 25?
11h25.
11h25. Jean chapitre 6, verset 45. C'est un verset comme ça, là. Il y a parfois des versets dans l'évangile de Jean, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le reste? Mais quand on approfondit, mes amis, quelle joie de découvrir le sens d'un verset. Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement et a reçu son enseignement, vient à moi. L'enseignement du Père se fait par les prophètes, dans la voix de Dieu, par les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu a parlé par les prophètes pour annoncer Jésus-Christ. C'est un sujet extrêmement important. Il y a des livres chez nous, ici, dans la bibliothèque, tout ça, ça vaut la peine de l'approfondir. Mais ils seront tous enseignés de Dieu, ça veut dire que dans le peuple juif, à l'époque où Jésus arrive, peu, très peu, connaissaient les Écritures. Et ceux qui auraient dû l'enseigner aux autres ne leur en donnaient que des miettes. Ils préféraient donner des traditions et asservir leurs corréligionnaires aux traditions, aux habitudes, aux coutumes. Méfiez-vous des traditions et des coutumes. Cherchez toujours l'autorité de la parole de Dieu. Toujours, à travers sa parole. Les hommes aiment les traditions et les coutumes. Et ils se méfient de la parole de Dieu. Ils la mettent au deuxième, troisième, dixième rang. Ça, c'est la marque du péché. Donc ici, il est mis clairement, ils seront tous enseignés de Dieu. Tous. Chapitre 8, verset 28. Chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils, donc crucifié, hein, élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous voyez, l'enseignement est extrêmement important. Jésus se met dans une position d'enseigner, de disciple, le disciple de son Père, le Fils de son Père. Celui qui aime la volonté de son Père et qui l'accomplit. Et c'est l'attitude même du chrétien que d'adopter l'attitude de Jésus. C'est extrêmement important, les amis, de prendre la même attitude que Jésus. C'est lui notre modèle, c'est lui qui nous conduit par son attitude, par ses principes, son mode de fonctionner, il nous montre comment nous devons fonctionner. Prenons un deuxième aux Corinthiens, chapitre 2. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 2. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Chapitre 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Vous voyez ici qu'il est clair que le chrétien dégage quelque chose que les autres ressentent. Les autres ressentent quelque chose en présence. Vous savez, il peut arriver parfois au printemps, surtout au printemps, mais parfois même à d'autres saisons, Vous êtes dans la nature, vous ne voyez pas telle et telle fleur, mais vous dites, oh, il y a du muguet là-haut. Oh, il y a des roses par là. Ah, il y a des aubépines là-haut. Mais vous ne les avez pas encore vues, que vous savez qu'elles sont là. Parce que l'odeur vous renseigne la réalité et la présence. Et l'odeur a une efficacité. C'est un enseignement. Ça nous enseigne qu'il y a, et pour les abeilles, pour les mouches, c'est la même chose. Ils sortent de la ruche, où est-ce qu'ils vont? Ils foncent dans le tas comme ça, ils se tapent dans le tronc d'un arbre ou dans un rocher? Non! Ils perçoivent où sont les bonnes fleurs pour eux, et c'est la même chose, même pour les guêpes, pour les mouches, c'est valable pour plein d'autres, les morosphinx, etc. Alors, les amis, il est clair que l'odeur est une manière d'enseigner. Quand vous allez, si vous avez été jeune, vous allez dans un bal, vous croisez des filles, elles ont toutes mis un parfum différent. Elles vous enseignent quelque chose. Quand vous circulez dans les magasins, elles ont mis des parfums, elles vous enseignent quelque chose. Il y a des parfums qui sont faits pour vous faire tomber. Hein.
Les hommes mettent aussi du parfum.
Les hommes sont extrêmement vulnérables à ça. Et il y a des parfums, d'autres parfums, quoi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qu'il y a, il y a des parfums qui sont étudiés pour taper juste. Les parfums de Dieu sont plus efficaces encore. Parce qu'ils amènent à la vérité. Ils amènent à la vérité. Et pour celui qui les refuse, verset 16, une odeur de mort donnant la mort. Pour celui qui refuse ce qu'il ressent à part de Dieu, les signes qu'il reçoit, par la présence d'un chrétien dans son quartier, par la présence d'un chrétien qu'il a rencontré dans le bus, ou à l'école, ou lors d'une festivité, comme un repas après l'enterrement, etc., n'importe. Il y a des gens qui ne peuvent pas saquer, supporter le chrétien. Ça provoque en eux une irritation, une colère énorme, et ils vont vers la mort, ils vont vers la séparation de Dieu. La mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et il y en a d'autres, mais il y a quelque chose chez cette personne-là, il faut que je parle avec. Ou j'aurai peut-être l'occasion plus tard, quand je rencontrerai, pourvu que je puisse parler avec. Ou aller chez elle. Ou qu'elle vienne chez moi. Ou alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer un désir clair, mais ils sont touchés. Et vous les retrouvez plus tard, plus loin, à un autre endroit, et puis tout d'un coup, ils retombent sur vous, et puis, boum, ça percute. L'odeur de Christ est un message, c'est un enseignement. N'oubliez jamais que c'est un langage très profond que ce que Paul dit là. Il y a toutes sortes de langages, sinon les abeilles n'iraient jamais dans les fleurs et ne ramèneraient jamais quelque chose dans les ruches pour faire du miel. Et nous, nous sommes comme des fleurs, d'autres vont venir chercher chez nous quelque chose, ils vont retourner chez eux, c'est la ruche, ils vont apporter quelque chose de nouveau dans leur famille, dans leur cœur, dans leur âme. Croyez à cela, les amis. Ne soyez pas pessimistes. Moi, je suis dans la joie, malgré toutes les épreuves que nous subissons, là, dans l'Église, au niveau du nombre, mais aussi, bon, tout le monde attrape quelque chose au niveau santé, pour le moment, et quand c'est pas au niveau argent et d'autres trucs, mais ce qu'il y a, je ne sais pas, je perçois autre chose. Je dis que les temps se font courts, les temps avancent, supportant l'épreuve, persévérant. Ils se préparent autre chose pour nous. Je pense que les choses se préparent. Le cheval vert d'Apocalypse, il est sur la Chine pour le moment. Alors, ce sera peut-être ici, avec la médecine, les maladies orphelines et tout ce qu'on fait. On se bat hein, dans les laboratoires, continuellement contre des maladies qui apparaissent. Et il y a des chercheurs, des médecins qui sont comme ça, ils n'arrivent pas à soigner certaines personnes. Ça fait longtemps que ça dure, ça, ce cheval vert. Les maladies virales qui étaient annoncées. Alors, nous serons tous enseignés de Dieu, et nous sommes tous enseignés par notre Seigneur. Hébreux 9,14. Hébreux 9,14. Quelle chance d'avoir un Dieu vivant! Quelle chance d'avoir un cœur qui a été touché par le Saint-Esprit et qui peut percevoir des signes de Dieu, des odeurs, des parfums de Dieu. Quelle chance que nous avons, même si nous sommes encore pauvres actuellement, même si nous sommes encore pauvres, même si nous sommes encore des boiteux, des demi-sourds, des demi-aveugles, nous percevons. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, donc c'est le Saint-Esprit, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, imaginez la pureté de Christ, hein, sans tâche à Dieu, sauf purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Dans notre conscience, lorsque nous recevons des messages du Seigneur, par la parole de Dieu, mais aussi par d'autres signes, par des parfums de Dieu, l'action de Christ, c'est de purifier notre conscience, de la faire avancer plus vers une évidence, c'est que Dieu est vivant. Et plus on a cette conscience, plus c'est une joie de le servir. Hébreux 9, 14. Ne laissez pas votre conscience se ramollir, se faire raboter par des sortes de trucs. Il faut résister. Il faut résister et il faut avoir en nous, laisser faire une œuvre de Christ pour purifier notre conscience des œuvres mortes. Mais de tout ce qui n'est pas nécessaire au ciel, on ne va pas embarquer tout ça, tout ce à quoi on est attaché. Et même dans le royaume de Christ sur terre, pendant 1000 ans, il y a plein de choses qui ne seront plus comme maintenant. Hein? Donc, voilà. Et il faut faire attention, il purifie, Christ purifie notre conscience. Pour servir le Dieu vivant, c'est afin d'être la véritable servante, le véritable serviteur, aujourd'hui, du Dieu vivant, vivant. Pas dans le placard, c'est pour ça, majesté, à lui la majesté, à toi la majesté, à vous la majesté. À lui, c'est qu'il est encore bien loin. Alors, nous allons regarder dans Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, en archéo, avant l'histoire, était la parole de Dieu. La parole, donc, logos, c'est la transcription grecque de d'avar en hébreu. La parole, c'est le nom de Christ, la deuxième personne de la Trinité. Était la parole, a été et il sera. Et la parole était avec Dieu, a été et il sera avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le Christ est la parole vivante incarnée. Il parle à mon cœur. C'est pas parce que vous ne le voyez pas, que je ne le vois pas, qu'il ne me parle pas. Il faut arrêter de croire qu'il faudrait le voir un jour pour qu'il nous parle. Il parle aujourd'hui. D'abord, en lisant la Bible, il faut le faire fidèlement, il nous parle. La deuxième chose, quand on est en train de prier, on est dans l'auto, on est dans le lit, on a mal, on a pas mal, mais n'importe. On peut se laisser conduire et que Dieu nous parle. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, parce que notre âme, notre esprit n'est pas mort, il est allumé, il est habité de l'onction du Saint-Esprit. Il n'est pas éteint. Alors, la parole que Jésus a dite dans Jean 6, 45, ils seront tous enseignés de Dieu, est permanente. C'est une réalité permanente. Et donc, continuons dans Jean chapitre 1, verset 14. Ah, je n'ai pas été jusqu'au verset 4. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si la parole de Dieu était, c'est un verbe qui veut dire a été, est et sera. Est et sera. Si elle est la lumière des hommes, il faut la recevoir. Ou alors il faut la refuser. Si je l'ai reçu un certain jour, pourquoi est-ce que je m'en priverai après? Pourquoi un enfant de Dieu aimerait-il marcher dans les ténèbres, dans l'obscurité, et s'y perdre? Il faut aimer de tout son cœur la lumière de Christ. Il faut la garder dans son cœur. C'est comme dans un vase qu'on doit la mettre. Notre âme, notre cœur est un vase. Et regardons verset 14. La parole a été faite chair, donc humaine. Elle a habité parmi nous. Menain, hein, c'est camper, habiter, marcher avec nous, dans pèleriner avec nous, à travers notre pèlerinage sur la terre, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et il y a quelque chose qui se fait dans celui qui est vraiment attaché au Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a comme une contemplation qui se fait en lui. Il y a comme une communication du Christ avec lui. Et ça, c'est personnel, c'est interpersonnel, c'est entre le Christ et le chrétien. C'est quelque chose, la chose la plus précieuse pour le chrétien réellement, qui aime Christ et qui s'est donné à lui. Et au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » N'oublions pas Hébreux chapitre 1. Ce sont toutes des choses élémentaires, mais tellement riches, sur lesquelles on passe trop vite. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, eschaton, c'est depuis la mort et la résurrection de Jésus est le dernier temps. Hein. Ce n'est pas le dernier temps quand Jésus revient. Depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour, c'est le dernier temps. Eschaton. Alors, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, le Christ, qu'il a établi héritier toutes choses. Donc nous lui appartenons. À partir du moment où on s'est converti, nous lui appartenons. Nous faisons partie de son bien, de son héritage. Et comme le Fils nous aime, il nous présente comme lui-même à notre Dieu, à notre Père des cieux, le jour que c'est le jugement. Et comme nous appartenons à Christ et qu'il nous présente, nous ne sommes pas sous une condamnation devant Dieu. Il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier toutes choses, par lequel il a créé aussi le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, Epiphanou est le reflet de sa gloire, donc ça c'est le replanissement de sa nature même, de Dieu, l'empreinte de sa personne, soutenant toute chose par sa parole puissante. Où puis-je trouver une force quand ça va mal? Où puis-je trouver une force même quand je suis heureux? Par sa parole puissante. Dans Romains chapitre 1, versets 14 à 16, Paul dit que l'évangile est la puissance de Dieu. Pour celui qui croit, pour celui qui a la foi, la puissance de Dieu. Mais combien de fois, ici en Europe, le chrétien se passe de la puissance de Dieu? Il veut faire rouler sa voiture sans mettre du carburant à la pompe. Il veut avoir de la force et faire le Rambo sans manger à table. Le chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu. Elle est toute puissante. Ce n'est pas une parole d'homme. Et il a fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. S'il a fait la purification des péchés, pour moi, je suis propre aux yeux de Dieu, mais dans ma conscience, il revient toujours des choses tordues, à cause que je descends d'Adam et Ève, il continue à faire la purification. C'est une œuvre permanente de Christ, par sa parole toute puissante. C'est pour ça que Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1, il dit « Il nous a régénérés par sa parole permanente et vivante. » La parole qui demeure, celle de l'Évangile. Donc, ils seront tous enseignés de Dieu. Comptez bien que tout cela était clair quand Jésus a parlé. Alors, Jésus va parler avec des symboles très forts. Il va parler avec des symboles qui parfois vont se, un peu ébranler, à travers l'histoire, ébranler le christianisme. Ébranler ceux qui ne sont pas nés de nouveau, surtout. Dans Jean, au chapitre 6, verset 34, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, si on s'attache au premier mot, je suis le pain de vie, je vais considérer qu'en prenant la Sainte Cène, je reçois le pain de vie, le Christ. Si je considère que c'est le morceau de pain que je prends à la Sainte Cène qui me donne la vie éternelle, j'en fais un sacrement. C'est ce qui est apparu avec saint Augustin au IVe siècle. Et c'est ce qui continue dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Et ce qu'il y a, si vous regardez bien le verset, il est mis « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Donc, venir à la personne de Christ, ce n'est pas une question de manducation. Ce n'est pas une question de mastiquer du pain ou une hostie. Ce n'est pas une question de boire du vin en croyant que c'est devenu le sang du Christ. C'est la foi. C'est le même problème que pour le baptême. On a dénaturé l'ordre de Christ de baptiser ceux qui croient. Mais pourtant, dans Marc 16, verset 16, c'est quand même l'apôtre Pierre qui enseigne à Saint-Marc, puisque Marc est son disciple. Celui qui croit en moi et qui est baptisé est sauvé, celui qui ne croit pas en moi est condamné. Donc le baptême ne sauve pas.
C'est la foi.
C'est la foi. Mais, fin du IVe siècle, on a dit c'est le baptême qui sauve. Et ça continue. Vous entendez des cloches sonner, et puis on présente un enfant, hein, mais de moins en moins. De moins en moins. Il y a peut-être 20-25% de la population qui fait encore baptiser. Il n'y en a que 3-4% qui croient réellement, qui sont persuadés que le baptême sauve. Mais pour les autres, sur les 25%, c'est un rituel. Ils ont peur de ne pas le faire. On ne sait jamais s'ils avaient raison. Et vous voyez ici que c'est la foi. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, continuons. Au verset 29 de Jean, chapitre 6, verset 29, Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, donc l'action de Dieu, pas l'action des hommes, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc l'action de Dieu, c'est de mettre dans mon âme, dans mon esprit, la foi dans Jésus, son Fils, qui l'a envoyé. Donc, ça dépend de Dieu, le salut. Ça ne dépend pas de manger un morceau de pain pendant la messe ou pendant le culte. Jean 6, 29. Ça dépend de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu de croire. La deuxième chose, c'est que l'œuvre de Dieu, moi, c'est la foi. Ce n'est pas de manger du pain. Regardez, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est l'œuvre de la foi qui est l'œuvre, qui est la conséquence de l'œuvre et l'expression de l'œuvre du Père en moi. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, donc fait l'expérience de Jésus, la rencontre et croit en lui, donc c'est la foi, et la vie éternelle. Et je résisterai au dernier jour, donc au moment du jugement. Alors, au moment de la résurrection, il y a une résurrection qui n'est pas le salut. La vie éternelle est avant celui qui a cru. La résurrection des corps, c'est un corollaire de la puissance de Dieu. C'est un corollaire de son œuvre. Et c'est l'œuvre numéro 2. L'œuvre numéro 1, c'est le don de la foi. Et c'est la foi qui nous fait rentrer dans la vie éternelle. Alors, nous n'avons pas la foi dans notre foi. Nous avons la foi dans Dieu qui nous donne la foi. Nous avons la foi dans Christ. Mais nous n'avons pas la foi dans notre foi. Nous ne pouvons pas avoir de présomption et être orgueilleux de notre foi. C'est humblement que nous devons recevoir l'œuvre de la foi en nous. Et l'attribut de la foi n'est pas la propriété d'une église particulière. Le don de la foi n'est pas le don d'un pasteur ou d'une église, d'une institution, etc. Qu'elle soit une église qui a 15 ans d'existence ou 2000 ans d'existence, ce n'est pas l'église qui donne la foi, c'est Dieu, Dieu le Père. Alors, au verset 44, « Nul ne peut venir à moi, donc à Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, le mot « attirer », c'est le mot « séduire hein ». Il est clair que le Père m'attire vers Jésus. Le Père me fait venir vers Jésus. C'est déjà, avant que j'ai la foi, c'est déjà une action. Une action de Dieu. C'est déjà, avant que j'ai la foi, c'est déjà une action préparatoire. Et c'est tout est dans l'action de recréation. Je suis pécheur, mais je suis recréé progressivement pour tout d'un coup naître à nouveau. C'est, si vous voulez, juste avant la nouvelle naissance, c'est comme si j'étais 9 mois dans le ventre de la maman. Je suis préparé par Dieu pour sortir et renaître. Vous voyez ? Mais je suis porté par Dieu, comme un bébé est porté par la maman dans son ventre. La foi, il n'y a pas un mérite en moi. Alors, au verset 51, 6:51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Voilà donc le symbole qui nous représente la valeur de Jésus. La valeur de Jésus, c'est un pain descendu du ciel. Tandis que celui de Moïse, c'était de la manne qui tombait, c'était des cailles, etc. Mais ce n'était pas le Fils de Dieu qui tombait du ciel. Ce n'était pas le Messie. Et en plus, ce n'était pas le Messie qui va mourir à la croix pour le pardon de mes péchés, qui va ressusciter pour me donner la vie nouvelle. C'était simplement de la manne et de la caille, des perdrix, pour pouvoir vivre pendant 43 ans dans le désert. Ce qui est clair, c'est qu'ici, le pain vivant, c'est le Christ qui est descendu du ciel, par différence avec le pain de Moïse. Alors, l'image est très forte. Abandonnez Moïse, qui ne nous a donné que du pain, et venez à moi, qui vous donne la vie éternelle. Abandonnez les lois de Moïse, abandonnez les traditions et les rituels, et venez à moi. C'est moi la source d'eau vive, c'est moi le vivant, c'est moi qui représente le don de la vie pour vous. Alors, ils sont complètement dans le cirage. Verset 52, les Juifs disputaient entre eux, donc ils discutaient, ils se contredisaient, etc., ils cherchaient, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous voyez, ils sont égarés. Ils sont égarés dans ce qu'on appelle un acte de manducation, c'est-à-dire mâcher quelque chose, et puis c'est bizarre, il veut qu'on devienne des cannibales, et qu'on mange tout cru, hein? On va peut-être le passer au four, hein? Un bon barbecue, et puis... Hein? L'agneau, là, qu'on passe le gigot, puis on le mange. Non, ils ne comprennent plus rien. Et Jésus leur dit en vérité, donc c'est un oracle, Amin, je vous le dis. Mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est ça qui, au XIIe siècle, a fait qu'Anselme de Cantorbéry, qu'on appelle Saint Anselme, et Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin pour certains, pas plus saint que nous, pratiquement, on dit, eh bien oui, quand le prêtre va prier sur le pain et le vin, nous allons manger le pain et le corps de Christ. Nous mangeons sa chair et son sang. Or, il est mis dans Hébreux qu'il s'est sacrifié une fois pour toutes, qu'il n'y a pas un deuxième sacrifice. Donc, ils ont offensé la parole de Dieu. Alors, comme il y a eu des réticences avec Erasme, Luther, Mélenchon, son église, etc., l'apparition des protestants, qui étaient tous des anciens prêtres, des moines, la résistance des dogmes pareils, au concile de Trente, ils se sont dit, ils se sont disputés pendant près de 30 ans, est-ce qu'on va supprimer l'épître aux Hébreux, comme ça on sera tranquille. Et pour finir, heureusement, les dominicains n'ont pas été d'accord. Mais les jésuites et les franciscains étaient pour. Comme ça, on a la paix. C'est le sacrement qui sauve, point de ligne. Les amis, il y a eu des débats dans les conciles. Ça castagnait. Et il y en a qui n'ont pas été d'accord. Ça, on ne le dit pas. La sainte autorité infaillible des conciles et du pape. Mais non ! La sainte pagaille des conciles. La pagaille des hommes entre eux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Certains, du moins, en tout cas. Alors, on a pris ce verset-là en disant « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Alors ici, vous avez des paroles extrêmement fortes qui expriment ceci. Si vous ne croyez pas du fond de mon cœur, c'est ça manger, si vous ne croyez pas du fond de votre cœur, que je donne ma vie sur la croix pour vous, que je donne mon sang pour vous racheter, vous ne serez pas sauvés. Vous n'adoptez pas clairement, avec foi, le sacrifice que j'ai fait à la croix, pour vous, vous n'êtes pas sauvés. C'est que vous croyez encore que vous allez pouvoir vous sauver un petit peu par vous-même, par vos œuvres, etc. Non, il n'y a pas d'issue. Vous ne pourrez pas être sauvé en dehors de mon sacrifice à la croix. Et le sang et ma chair qui sont offerts à la croix sont la source de vie éternelle. Parce que je suis sans péché, je suis l'offrande pure, qui est expiatoire, qui paye la dette que vous avez. Et en plus, la colère de Dieu disparaît sur vous. Vous avez la paix de Dieu, vous êtes réconcilié avec Dieu. Donc mon sacrifice est propitiatoire à votre égard. Alors, on a fait de ces versets, on les a travestis comme un homme qui s'habille en femme, ou une femme qui s'habille en homme, on a fait de ces versets ce qu'on appelle le sacrement de l'Eucharistie. On a travesti quelque chose que Dieu n'avait pas dit. La fonction même du sacrifice de Jésus sur la croix suffit. Or, c'est un grand débat. Quand un prêtre ou des catholiques arrivent dans un temple évangélique ou dans une communauté évangélique, mais il n'y a rien qui nous sépare. Si on s'aime, on est tous frères et sœurs. Mais il y a des choses énormes qui nous séparent. Les sacrements. Nous ne croyons pas que les sacrements sauvent, nous. Nous ne croyons pas que le baptême donne la foi et le salut. Nous ne croyons rien de tout cela. Nous ne pouvons pas être en communion d'esprit. Parce que ce qui a été forgé durant le IVe siècle et qui a été adopté par autorité, qu'on a imposé à tout le monde, ne vient pas de la Bible. Que faire ? Et que répondent aux catholiques qui sont tracassés par la transsubstantiation, un mot qui vient du Moyen-Âge, où le pain et le vin, quand le prêtre fait l'épiclèse, c'est-à-dire il demande au Saint-Esprit de changer le pain et le vin dans le corps et le sang de Jésus. J'étais prêtre, n'oubliez pas. Hein ? Eh bien, la transsubstantiation n'est pas dans la Bible. Et eux, ils disent qu'elle l'est. Quand j'ai une confrontation avec le doyen de Montmédy, quand on faisait des réunions là-bas, il me dit « Mais oui, mais c'est mis, ceci est mon corps, c'est esti en grec. Esti. Mais alors, moi je lui prends le chapitre 10, je suis la porte des brebis, c'est esti. Je suis le berger des brebis, c'est esti. Je suis le meilleur du monde, c'est esti, c'est le même verbe. Alors ça ne veut rien dire. » Il m'a trouvé quelque chose, j'ai dit « Mais c'est pas possible, il n'y connaît rien. » Je n'ai pas cherché plus loin. Parce qu'il était dur, 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 et ne voulait surtout pas discuter avec moi. J'étais non grata, comme on dit. Alors, que faire devant un entêtement pareil? Que faire? Si quelqu'un ne veut pas approfondir la parole de Dieu, qui va le remettre en question? Priez pour lui, hein, les amis. Il faut prier pour lui. Il n'y a rien d'autre. De toute manière, dans Matthieu 4, verset 4, qu'est-ce que dit Jésus à Satan? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. C'est pas clair, ça? Que le pain, le vrai pain que nous avons aujourd'hui, pour nous nourrir, c'est la parole de Dieu. Et dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, qu'est-ce qu'il a dit? Premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Vous savez que j'étais extrêmement abattu au matin, très abattu, complètement abattu. Et c'est, je pense que c'est, nous connaissons ça, nous avons des obstacles. Abattu. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, arrière. Hein. Arrière. Hein. Il y a le culte, il faut être joyeux, et il faut être dans l'amour et la vérité. Point à la ligne. Arrière, Satan. Et je vous garantis que je n'ai plus le coup de pompe. Alors, 1 Samuel 15, pourquoi est-ce qu'il viendrait des coups de pompe sur nous? Parce que c'est lui qui les donne les coups de pompe, l'autre. Il nous dégonfle les pneus. Ben, reprenons le compresseur, on va chez Michelin, on les regonfle. C'est-à-dire, je m'excuse de la blague, mais redemandons à Dieu que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Non, Samuel, j'étais dans le deuxième, pardon. J'allais me lancer, tête baissée. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Donc vous voyez bien, les sacrifices qu'il faisait dans le temple, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Vous voyez, la primauté, c'est la voix de l'Éternel, c'est la révélation par les prophètes. C'est la révélation par l'Esprit de Dieu. À ce temps-là, déjà, on s'accrochait à la brebis, à l'agneau qu'on sacrifiait. Eh bien, au Moyen-Âge, on s'est accroché à la croix, on en a mis partout, dans les champs et tout ça, on s'est accroché à, un cadavre qu'on mettait sur la croix, et puis, ben, il faudrait bien que le cadavre ressuscite sur l'autel. On va prier, et Jésus est là. On répète le Saint-Sacrifice de la Messe. On est obsédé par des sacrifices répétables et répétés. Obsédé. C'est déjà dénoncé. Le fondement de la vie du peuple de Dieu, c'est la voix de l'Éternel. 1 Samuel 15, 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais aujourd'hui, l'obéissance vaut mieux qu'une bonne messe, entre guillemets, bonne. Il y en a. L'observation de la parole vaut mieux que quoi? Que de regarder, d'aller tendre la bouche et de prendre une hostie. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphime. Donc, c'était avec des petits osselets qu'on tirait le sort. Alors, pratiquement, l'obéissance et la désobéissance sont l'enjeu de notre vie avec Dieu. Et l'obéissance se fait par rapport à la parole de Dieu. Et les sacrifices et tout le reste. Pouette, pouette. Regardez bien, le roi le reconnaît lui-même. J'achève le verset 23. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Si aujourd'hui, un chrétien va vers les sacrements, va vers des rites, baptême, mariage, enterrement, etc., parfois confession. Et quand il est trop accablé, ou maintenant on va chez le psychiatre, le psychologue, ou la voyante. Hein. Mais enfin, il y en a encore qui y vont un peu, très rare. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, j'ai pas obéi aux paroles. J'ai rejeté la parole de l'Éternel. Et puis Dieu me rejette. Je ne suis pas en accord avec Dieu, si je rejette sa parole. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, celui qui demeure dans ma parole demeure en moi. Il n'est pas question de prendre du pain et du vin en disant c'est le corps et le sang du Christ. Ça, c'est un rituel qui nous rattache à un atavisme profond, celui que ici Samuel dénonce déjà dans le peuple juif. Un rite qui remplace l'obéissance à la parole. Donc, verset 24. Samuel dit. Alors, Saül dit à Samuel, le roi désobéissant : j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi ta parole, je craignais le peuple, j'ai écouté sa voix. Eh oui, je marchais avec les autres. Et comme mon intérêt était d'être d'accord avec les autres, ben, j'ai fait comme les autres. Le v'là l'aveu. On se conforme à l'ambiance et aux traditions. On se conforme aux désirs des autres. Et on fait comme tout le monde. Mais ça, c'est pas pour Dieu, ça. Hein? Dieu n'a pas de place là-dedans. C'est une vaste comédie. Il l'explique. Et qu'est-ce qu'il fait, 25 ? Je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi. Je me prosternerai devant l'Éternel. Reviens avec moi. Et vite, vite, viens dire que je suis un bon roi, que je suis dans les mains de Dieu, etc. Mets l'huile sur moi, consacre-moi encore une fois. Qu'est-ce qu'on a fait ? À l'église Notre-Dame de Paris, on a sacré les rois. À Versailles, on a sacré avec des évêques et tout le reste. Bonaparte, le grand tueur, le grand boucher, qui est monté vers le nord jusqu'à Moscou. Pas mieux qu'Hitler, celui-là. Alors, il a eu des bénédictions. Quand Mussolini a attaqué l'Éthiopie, qu'il envoyait ses troupes sur des gens qui n'avaient que des lances et des arcs. Les Éthiopiens, le plus vieux royaume chrétien, qui compte maintenant, c'est la Somalie, l'Érythrée, l'Éthiopie et une partie du Soudan. C'était ça la grande Éthiopie à cette époque-là. Eh bien, les soldats italiens vont sur la place de Rome, Saint-Pierre, ils reçoivent la bénédiction de Pie XII. Est-ce qu'ils ont obéi à Dieu ? Non. Et le pape a fait, et le pape, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais j'ai eu peur des autres, j'ai fait comme les autres. Et ils vont tous aller à la messe, ils vont tous aller au paradis, hein ? Ici, Dieu est plus clair que ça, hein ? Regardez, je me prosternerai devant l'Éternel, la comédie religieuse. Et au verset 26, Samuel dit à Saül : je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Clac. Un peu plus loin, mais il persiste, hein ? Et ça, c'est, on voit que même encore maintenant, la religion qui n'est pas biblique veut persister. À tort. Verset 30. Saül dit encore : j'ai péché. Vous voyez ? Contrition. Si on fait ça, sacrement de confession, ben il est pardonné. Hein. Mais ça, vous voyez bien que Samuel, qui est un homme de Dieu, ne le fait pas. Je me suis refusé à le faire quand j'étais prêtre. J'ai refusé 75 000 euros sur 3 ans et demi de temps. Je me suis refusé. Je sentais bien. Je voyais bien que Dieu ne me rentrait pas là-dedans. Je ne pouvais pas. C'est imbuvable. Moi, à un moment donné, vous savez, où vous marchez dans cette voie-là, où vous marchez avec Dieu. Alors, Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple. On va faire un tédéum dans la cathédrale. Les prêtres, les doyens seront là, et on va bénir les dirigeants. Hein? Même s'ils vendent des armes, même s'ils ont des magouilles d'argent, même s'ils font n'importe quoi dans leur vie privée. Ils font des gosses aux autres, en cachette. Et puis pour finir, ils sont obligés de la reconnaître, comme on voit là, en Belgique. Hein ? Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. C'est pas Dieu qui compte, hein ? C'est son honneur. C'est ça. Son petit jeu. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Seul se prosterne devant l'Éternel. Et puis, c'est réglé, hein. Ça finira mal pour Saül. très mal. Tout quiconque triche avec l'Éternel, ça finira mal pour lui. Je n'ai pas de haine en disant ça. On ne peut pas jouer la comédie devant un grand Dieu, comme le vrai Dieu qui a créé l'univers, qui a donné un fils merveilleux sur la terre, merveilleux, qui a fait un cadeau merveilleux de sa vie pour nous, et qui est vivant aujourd'hui. Le Saint-Esprit est merveilleux chez ceux qui croient. Il n'y a pas besoin de rites et de comédies où on se met en valeur, où on met les mensonges humains en valeur, où on met une couche de pommade sur tous les péchés. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, il faut faire de la vie de Jésus notre vie. Il faut faire de son esprit notre esprit. Il faut faire de sa parole notre parole. N'est-ce pas? Et tous les effets de la grâce sont en nous. La clé de notre salut, pour notre salut, où elle se joue? Allons voir dans Romains 6. Romains 6. Où elle se joue? Puisque ce n'est pas en mangeant du pain béni, consacré par le prêtre, ou par un acte de baptême d'un homme consacré à Dieu, un acte de baptême qui sauverait les autres. Où est la source de salut? Expliquez-moi, si la Bible a raison, dites-moi où elle est, la vérité. Eh bien, Romains 6, verset 22. Qu'est-ce que je voudrais pouvoir dire ça à tous les gens de la région ici? Qu'est-ce que je voudrais pouvoir le dire? Chapitre 5 d'abord. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, donc c'est Adam, la mort a régné par lui seul, Adam a mis le poison, parce qu'il a signé en bas de la page, et tous les descendants sont dans le péché, et la mort, et l'offense à Dieu, et la condamnation. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il y a deux choses dans ce verset-là. Il y a l'abondance de la grâce, c'est l'abondance de l'amour de Dieu. Dieu est gracieux, Dieu est miséricordieux. Il ne regarde pas quand on a fait des petits péchés ou des grands péchés. Il peut pardonner tout, entièrement. Sa grâce est immense pour le pécheur. Elle est immense, incommensurable, parce qu'il aime sa créature. Il aime les pécheurs, il n'aime pas le péché. C'est ça la différence. Et la deuxième chose, le don de sa justice. Eh bien, celui qui se présente devant Dieu dans la prière, que ce soit n'importe où, dans le jardin, dans la voiture, n'importe où, dans un arrêt de bus, il dit « Seigneur mon Dieu, j'ai péché. Et je sais que je ne peux pas venir tout près de toi, c'est pas possible. Je ne pourrais pas rentrer dans ton ciel. Mais Seigneur, je sais que Jésus a payé pour moi. Je sais que Jésus a donné sa vie pour moi. Je sais qu'il m'a aimé. Il a tout donné pour moi, pour que je sois pardonné. Et je sais que j'accepte que tu me pardonnes, Seigneur, à cause de Jésus. Pas à cause de mes qualités, pas à cause de ma religion, à cause du sang de Jésus. J'accepte d'être sauvé, Seigneur, mon Dieu. J'accepte. Qu'est-ce qui se fait dans le ciel? Dans le livre de vie, le nom, votre nom est écrit. Et dans le livre des condamnés, votre nom est barré. Vous êtes mis sous la justice de Christ, qui est juste. Vous héritez de la justice de Christ, mais en nous, il n'y a pas de justice. Nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu. Nous sommes justes en Christ. Et c'est ça, nous héritons du don de la justice. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense d'Adam, la condamnation atteint tous les hommes, ben oui, nous sommes tous séparés de Dieu et condamnables, pas comme les témoins de Jéhovah disent, hein. Les témoins de Jéhovah disent qu'il y a des gens comme Abraham, etc., Moïse, ce sont des meilleurs hommes, ils sont en Dieu, etc. Ils font une sélection, il y a deux sortes. Ils se trompent largement. Hein. Eux-mêmes, Abraham a dû demander pardon à Dieu. Et Dieu lui imputa sa justice à cause de sa foi. Alors, on n'a pas bien lu la Bible avec les mêmes lunettes qu'on devrait avoir tous. Alors, qu'est-ce qu'il a mis ici ? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le seul acte de justice, c'est que la dette est payée. Seigneur, maintenant, tu peux les recevoir, j'ai payé leur dette. Jésus s'avance vers le Père, avec les trous dans les mains, dans le flanc et les pieds. Seigneur, j'ai fait le sacrifice qui a sauvé tous tes enfants. Puisses-tu, quand ils viendront à toi, quand tu les appelleras, puissent-ils se présenter avec moi, devant toi, sous ma justice. Seigneur mon Dieu, c'est à toi de les appeler. Seigneur mon Dieu, c'est à toi de changer leur cœur, pour qu'ils se présentent avec moi, derrière moi, devant toi. Sans aucun mérite de leur part, sans aucun acte religieux, rituel religieux, simplement, Seigneur, par mon sang, par mes mains et par ma résurrection, je sais qu'ils peuvent venir auprès de toi et s'asseoir à côté de toi. Ils ont une place sur ton trône avec toi. Éphésiens chapitre 2, on va le lire après. Nous avons une place, nous sommes assis dans les cieux en Christ. Alors, regardez bien. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes l'acceptent. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Beaucoup ont été rendus pécheurs, on pourrait dire, mais alors il y en a qui ne sont pas pécheurs. Non, ce n'est pas ça. C'est que beaucoup ont lu la Bible, ont vu le 10 commandements, ou ont écouté leur conscience et ont vu leur péché. Ils ont été rendus conscients de leur péché. Ça, c'est Romains, chapitre 1 et chapitre 2. Ils ont été rendus conscients de leur péché. Ils ont vu clair. Ma parole, c'est pas possible. Je ne peux pas rester dans cette situation-là devant Dieu. Autrement, tout est raté pour moi. Tout est raté devant Dieu. Je suis un raté éternel. Mais c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont prendre conscience, être éclairés, accepter la lumière, aimer la vérité, c'est-à-dire voir leur péché, accepter de le voir, et reconnaître le sacrifice de Christ. Ils ont eu l'amour de la vérité, venu par Christ. Alors, c'est ça le beaucoup. Et de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, c'est-à-dire déclarés justes, pardonnés. La loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, vous voyez bien, la loi intervient pour mettre... Tiens, regarde, voilà comment on t'est. T'en as accompli 5 ou 6, mais les autres, t'as tout fait le contraire. Tu ne peux pas rentrer auprès de Dieu. C'est la loi qui montre ça. C'est pour ça que la loi a été offerte, et la conscience a été offerte à l'homme. Pour que beaucoup se déclarent pécheurs volontairement devant Dieu. Et beaucoup acceptent volontairement le sacrifice de Christ pour leur salut. Et beaucoup se présentent devant Dieu volontairement avec Christ devant Dieu. La foi est une démarche consciente et volontaire. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. La justice, un acte de Dieu donné à l'homme. Si vous avez compris ça, il n'y a pas de sacrement en dehors du corps de Christ à la croix et du corps ressuscité. Il n'y a pas d'autre sacrement, et sa parole. Il n'y a pas d'autre sacrement de moyen d'aller à Dieu.
C'était où, quoi, ça? Là où tu as lu, c'est quoi?
C'est Romains, chapitre 5, versets 17 à 21.
17 à 21.
Les amis, on va arrêter aujourd'hui, mais vous voyez, quand on va dans l'évangile de Jean et qu'on prend ce chapitre 6 avec la chair, manger mon sang, ma chair et tout, et ça y est, hein, si on a envie de déraper, on va glisser. Hein. Et vous savez, moi je disais toujours glisser sur une banane, hein, glisser sur une banane ou une peau de banane. Mais écoutez,
ça m'est arrivé une fois. Oui, ça m'est arrivé une fois. Je descends l'escalier, il n'y avait plus. Et il y avait une banane, peau de banane sur la fenêtre. De 4-5 jours, là, un peu noir, vous savez, là. Et avec le vent, elle tombe. Je mets le pied dessus, je dégringue dans tout l'escalier, je me rattrape. Ah, Jackie, mon vieux, là, j'ai cru que j'allais me casser les os. Je me rattrape. Il dit, purée, la peau de banane, j'ai compris ce que ça veut dire. C'est pire que... comme du verglas. Comme du verglas. La religion, c'est une peau de banane sous vos pieds. Les sacrements, c'est une peau de banane. Offert par le diable pour égarer les chrétiens, pour ceux qui cherchent la vie éternelle. C'est la peau de banane du diable. Et ça, c'est venu au 4e siècle. Ne vous laissez pas prendre par les peaux de banane. La clé, c'est l'acte de justice que Dieu a décidé du haut des cieux et opère à celui qui se repent. La clé du salut, c'est le pardon de Dieu. Et il nous rend juste gratuitement parce que sa grâce est immense. Il nous aime. Il n'y a que le péché qui n'aime pas. Le sacrifice unique de Christ témoigne d'une immense miséricorde de Dieu pour nous. Et l'acte de justice, dans mon cœur, le jour que j'ai demandé, vraiment pardon, j'ai cru en Christ, l'acte qui touche mon cœur, c'est un acte de justice, c'est un pardon éternel, assuré pour toujours. C'est un acte de miséricorde de Dieu pour moi. Quelle grâce d'être sauvé. Parce qu'on n'est pas brillant par nous-mêmes, vous savez. On a beau lire la Bible, on a beau faire des prières, on n'est pas brillant. Les peaux de banane et les savonnettes, il y en a toujours. Hein. Nos péchés reviennent. Mais la grâce surabonde là où le péché abonde. Et si vous voulez bien, je voulais répondre à ça. Pourquoi ? Parce que quelqu'un dans les études bibliques en semaine, quand je fais des petites études, il a dit, alors, pour le prêtre avec le sacrement de... la communion, etc. Je dis, je vais le préparer. Pourquoi pas ? Je peux encore en dire beaucoup plus. Mais je vous réserve une chose, c'est la visite de Bernard Pruneau un jour, j'aimerais bien qu'il vienne, et qu'il vous présente toute la doctrine des sacrements. Tout. Et comment c'est arrivé dans l'histoire ? C'est pas pour casser du sucre sur des personnes qui sont sincères, qui sont catholiques. C'est pour montrer que les choses bibliques et les choses non bibliques sont différentes. Et qu'il faut choisir. Il faut retourner à la vraie parole de Dieu. Il n'y a qu'une de vraie parole. Ce n'est pas celle des conciles. Ce n'est pas celle des sacrements. C'est celle de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la Bible. Loué soit le Seigneur Jésus et sa parole.
Amen.
Qui veut prier ?